Alors aujourd'hui, on va parler maintenant donc des cartes de paiement sans contact. Vous savez, ces cartes bancaires sur lesquelles on peut voir des petites ondes stylisées dans le genre Wi-Fi. Ces cartes qu'il suffit de poser sur un lecteur approprié pour réaliser un paiement de moins de 20 euros sans même s'échiner à entrer les 4 chiffres de son code secret. C'est vrai que c'est difficile tous ces numéros à retenir de nos jours. Un de moins, ça ne nous ferait pas de mal. Avant d'aller plus loin, un petit point technique s'impose, même si Solarus nous en a déjà parlé. Les cartes de paiement sans contact s'appuient sur la technologie NFC pour Near Field Communication, qui sont dérivées de la RFID, Radio Frequency Identification. La NFC est un procédé par lequel deux produits communiquent entre eux automatiquement quand ils sont proches l'un de l'autre. Je vous épargne les détails. Les services NFC ou CPP, hein, parce que comme on est en France, on peut dire communication en champ proche, sont apparus dès 2004 en Corée et au Japon, et à partir de 2011 en France. Ils ont de nombreux usages, comme donner accès à des locaux, ou bien ils sont présents aussi dans les passes Navigo, dans les clés de voiture, pardon, et dans les tablettes et les portables. Alors les banques ont flairé le bon coup, parce qu'elles ont vu une possibilité de réduire les coûts liés à l'usage des espèces pour les petites transactions. Et du coup, elles misent beaucoup sur le NFC et les cartes qui ont cette option en s'attendant à ce que la paresse de leurs clients du coup, les incite à utiliser ces nouvelles cartes qu'elles essayent un peu de nous imposer. Ça marche d'ailleurs puisque à l'heure actuelle, 34,7 millions de cartes sont équipées, soit 54% des cartes en circulation en France. Il n'y en avait que 11 millions en 2013, c'est-à-dire si elles y vont avec entrain. Alors je dis imposer parce qu'on n'a pas vraiment le choix en tant que consommateur. Par exemple, lorsque j'ai reçu ma nouvelle carte il y a quelques semaines, ma banque m'a bien fait comprendre que cela ne servait à rien d'insister pour avoir une carte sans cette option. Si ça vous gêne, vous n'avez qu'à la désactiver sur le site internet, on m'a dit. Bon, oui mais voilà, moi je ne suis pas un grand connaisseur ou expert en technologie, mais j'ai lu certaines choses qui m'inquiètent au sujet des cartes de paiement sans contact. Cette technologie ne serait pas sécurisée. Des petits malins auraient même réussi à craquer le système pour récupérer toutes les informations contenues dans une carte bancaire. Pas de souci, m'a répondu ma banque, hein, qui voulait vraiment me rassurer. Tout cela est réglé aujourd'hui. On peut rien vous piquer avec ça. Dormez, braves gens. On s'occupe de tout. Bon, autant vous dire que si j'avais été convaincu par ce discours bancaire, je serais sans doute pas là à parler et vous seriez pas en train de m'écouter jacter à ce moment. Mais c'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui Grégory Estrade, qui est responsable de la R&D à Lyra Network, une entreprise toulousaine qui est spécialisée dans la sécurisation des transactions de proximité et en ligne. Et avec lui, on va discuter de tout ça dans quelques instants. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Alors, tu es aussi connu sous le pseudo de Torlus, tu es un bidouilleur informatique. Alors, je dis bidouilleur, c'est pas du tout péjoratif. On m'a dit que l'un de tes passe-temps, c'était le rétro-computing, c'est-à-dire la remise en marche de vieux ordinateurs des années 80. Je ne me trompe pas ?
Tout à fait.
Tout à fait. Bon, c'est pas pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, même si ça pourrait être un sujet intéressant. Je disais donc que tu étais un bidouilleur de première, et lors d'une crypto-partie en 2014, tu avais bricolé un capteur qui t'a permis de réaliser une expérience autour des cartes de paiement sans contact. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer cette expérience et me dire pourquoi ça t'est venu, cette idée ?
Mais en fait, en 2012, un chercheur en informatique du nom de Renaud Lifshitz avait fait une petite expérience avec du matériel qui devait coûter à peu près une trentaine d'euros à l'époque, de faire la lecture d'une carte NFC, de voir un peu à quel point elle était verbeuse. En 2012, c'était vraiment la foire, on pouvait récupérer le nom du porteur, le numéro de carte, ainsi que la date d'expiration, et ce qui était assez amusant, la liste des retraits et des débits qui avaient été faits et enregistrés sur la puce.
Donc tu as voulu tester ça en fait, si
voilà.
C'était vrai.
Donc je suis venu en 2014 avec un matériel similaire, en me disant bon, il y a quand même peu de chances que ça marche encore. Et j'ai pris quelqu'un dans la salle qui m'a gentiment prêté sa carte, que j'ai posée sur mon dispositif, et là... Boum, le murmure sourd dans la salle, la carte a révélé tous ses secrets, et effectivement, cette histoire de retrait, des retraits à certaines heures de la nuit pour un certain montant, c'est quand même des fois...
ce jeune homme avait des choses à se cacher, à cacher plutôt.
Peut-être.
Donc la salle a été surprise de l'étendue des choses qu'on pouvait apprendre avec, avec ton capteur bricolé.
Tout à fait.
Okay. Et toi, t'étais surpris ?
On aurait été en 2012, j'aurais pas été surpris outre mesure, mais là, 2014, on pouvait quand même légitimement se poser la question de savoir si les banques avaient pris en compte cet état de fait.
Alors pourquoi, dès le départ, quand elles ont mis sur le marché des cartes de paiement sans contact, pourquoi elles n'ont pas mis le niveau de sécurité adéquat ?
En fait, il faut savoir qu'il existe deux standards. L'ISO 7816, si je me souviens bien. Donc, il y a un standard qui est utilisé dans le paiement avec contact. Donc là, avec contact, on est dans le terminal de paiement, on est dans l'environnement sécurisé, pas de moyen d'interception facile. Ensuite, le standard pour la lecture en NFC, c'est ISO 14443, si je me souviens bien. En gros, c'est plutôt du formatage de messages et de communication. Et en quelque sorte, j'ai envie de dire que ces deux standards ont été un peu, par rapidité d'implémentation, un peu scotchés ensemble. Si bien que des choses qui ne devraient pas sortir du cadre d'un paiement avec contact se sont retrouvées disponibles sans contact.
D'accord, donc d'où le fait qu'il y ait des failles en fait.
Oui, à proprement parler, on ne peut pas parler de faille, mais plutôt d'une sorte de négligence ou de volonté d'aller rapidement. Il faut savoir que maintenant, dans toutes les cartes qui sortent actuellement, en tout cas, j'ai envie de dire, à peu près toutes les cartes, parce qu'on a encore eu des exceptions un peu curieuses par des banques qu'on pourrait qualifier de mauvais élèves, toutes les cartes récentes n'offrent qu'un seul point d'entrée, qui est... une sorte d'échange de clés de cryptographie qui forcément n'est accessible que si on a un terminal agréé qui démarre la transaction avec la carte de paiement.
D'accord. Mais du coup, les négligences qu'il y avait au début, est-ce que des malfaiteurs en ont profité ?
Je dirais que de manière massive, non. Parce que bon, c'est quand même de la communication à courte distance. Bon, on a vu des reportages un peu sensationnalistes où quelqu'un qui se baladerait avec un peu un équipement dans un sac à dos dans le métro récupérerait l'intégralité des cartes présentes par les gens portées par les gens dans la rame. Ça reste à mon avis du domaine du fantasme parce que bon, une lecture NFC c'est quand même pas très rapide. Et le standard, la portée, c'est une vingtaine de centimètres, quoi. Donc
d'accord.
Ça serait quand même assez dur à exploiter de manière
efficace
et facile. Quoi.
Donc c'est théoriquement possible, mais pratiquement un peu compliqué à mettre en œuvre.
Oui, voilà, c'est la fraude massive comme ça. Je n'y crois pas. Enfin, je ne pense pas que ça a été vraiment exploité. Par contre, la fraude unitaire, oui, c'est toujours possible. Oui.
Et donc on parlait du paiement sans contact et des négligences bancaires qui avaient conduit à ce qu'il y ait des petites, pas des failles, mais des petits soucis, des petits pépins de sécurité. Et donc notre invité, Grégory, qui nous disait que ça avait été réglé. Alors est-ce que les banques ont vraiment relevé le niveau de sécurité depuis le lancement de ce produit ?
Alors oui, dans le sens où les erreurs, la divulgation... abusive d'informations a été corrigé. Par contre, il existe maintenant de nouveaux types d'attaques, des attaques de type man in the middle, donc qui sont facilement réalisables dans le cadre d'un laboratoire, où le principe est le suivant on va mettre un téléphone Android, par exemple. Proche de la carte, un téléphone Android proche du terminal de paiement, et en fait on va capturer l'échange qui se passe entre les deux appareils. C'est-à-dire que avec une lecture passive, on peut uniquement recevoir, on va dire, une invitation à s'échanger des clés que forcément on n'a pas. Avec l'attaque de type man in the middle, les deux équipements, donc le terminal de paiement d'un côté et la carte de l'autre, vont plus loin, et donc on peut extraire des données échangées entre ces deux éléments, quelques informations. Après, j'ai pas fait encore l'étude de savoir quelles étaient les données échangées. Est-ce que les données qui passeraient en clair seraient exploitables pour, on va dire, dans le cadre de la fraude?
Mais alors, du coup, cette attaque, ce type d'attaque, il a été découvert en laboratoire ou il a été découvert suite à une attaque réalisée sur une carte?
Oh non, c'était modélisable en laboratoire, on va dire, depuis très longtemps. Déjà que dans le cadre d'une attaque, une attaque simple est déjà compliquée à mettre en œuvre. Alors une attaque de type man in the middle dans un contexte d'utilisation de paiement, là c'est carrément de la science-fiction.
D'accord, à ce point-là. Et tu dis pas ça parce que tu travailles dans le service bancaire, enfin dans le milieu bancaire?
Ah, du tout. Il faut savoir qu'il y a quand même un long historique de pratiques de sécurité qui ont été qui sont mises au goût du jour. C'est-à-dire que, par exemple, si on revient dans les années 80, quand la carte bancaire a commencé à être déployée, la carte bancaire était mise dans les terminaux de paiement, donc était connectée par modem à leur banque. Le temps de communication était très long. Les puissances des CPU, des terminaux de paiement étaient vraiment faibles. Donc on sacrifiait de la sécurité pour du confort d'utilisation. Maintenant, la sécurité, c'est pas quelque chose d'absolu. C'est quelque chose, on va dire, qui représente une difficulté d'exploiter des informations qu'on souhaite garder confidentielles au regard des attaques qui peuvent exister pour aller chercher ces informations. Donc en quelque sorte, c'est une course. C'est quand on estime que le niveau d'attaque est suffisamment difficile pour que n'importe qui, va dire, avec des connaissances moyennes, ne puisse pas attaquer le système, alors on considère que c'est suffisant.
D'accord, mais pour autant, il y a toujours de nouveaux types d'attaques, comme pour les virus informatiques, l'imagination humaine, elle n'a pas de limite dans ce cas-là, quoi. Il y a de nouveaux trucs qui apparaissent.
Oui, tout à fait. Bon, après, si on élargit ça à la sécurité informatique en général, bon, voilà, c'est... on sait qu'il faut changer les clés des certificats SSL avec des longueurs de plus en plus... des longueurs de clés de plus en plus longues. On sait qu'il faut éliminer des algorithmes parce qu'ils sont reconnus comme étant trop faibles à une utilisation, on va dire, raisonnable au XXIe siècle. Il y a eu tout un ensemble de failles sur SSL, donc je pense à Heartbleed, à Poodle et d'autres, qui ont mis à mal, on va dire, une partie de la sécurité d'Internet. Bon, il faut savoir qu'en fait... quand la sécurité des sites web est compromise par des problématiques de certificats et de chiffrement un peu faibles, on a un certain nombre d'équipements qui sont censés garantir la sécurité, qui s'appuient sur les mêmes standards dans les banques ou en communication avec d'autres systèmes. Et donc, là, on peut avoir raison d'avoir peur.
Mais pour revenir aux cartes, du coup, je lisais un article publié par le CNRS en juillet 2015, donc c'est tout récent, où les chercheurs qui étaient des experts en cryptographie disaient qu'il y avait encore plein de soucis à se faire et que c'était vraiment pas sécurisé. Et dans une des mesures de sécurité qu'ils proposaient, ils parlaient de Distance Bounding Protocol. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et est-ce que ça te paraît une mesure appropriée?
Si je me souviens bien, le distance bounding protocol, c'est en gros la mesure de physique de la distance qu'il y a entre l'émetteur et le récepteur, pour savoir si en fait l'émetteur auquel on s'adresse est bien à la bonne distance à laquelle on l'attend et n'est pas placé soit vraiment trop près, soit vraiment trop loin. Donc en fait, c'est vraiment une mesure physique. qui est quand même difficile cette fois à contrecarrer. Mais bon, sait-on jamais.
Excusez-moi d'intervenir dans l'interview, mais la NFC a été vendue comme étant plus simple. Là, tout d'un coup, il va falloir capter plus ou moins facilement. Ça va être à peu près aussi facile que régler son antenne dans les années 80 de sa télé, quoi. Hein.
Ah non, pas du tout. Pour le consommateur, ça n'a rien changé. C'est juste au niveau de l'implémentation, où, les deux systèmes, que ce soit le logiciel qui soit embarqué dans le Secure Element de la carte, ou que ce soit le lecteur, vont juste faire des vérifications supplémentaires.
Bon, du coup, à t'entendre, on dirait qu'il n'y a aucun problème sur les cartes de paiement sans contact. Est-ce qu'il n'y a pas encore des petites pétouilles quand même, genre si on a tous les deux une carte de paiement sans contact, on s'approche tous les deux du capteur, on va tous les deux être peut-être débités. Est-ce qu'il y a encore des choses de cet ordre-là qui existent au moins?
Ah oui, ça existe. Ça existe. Il y a eu des cas avec. Il y a des cas où si j'approche ma carte trop près, on va dire, du lecteur, alors que c'est pas à moi de payer, c'est moi qui risque d'être débité, non pas le celui qui.
Il faut s'écarter du payeur alors.
Voilà, ou alors il y a eu des histoires avec les cartes Oyster qui servent à se balader à Londres. Donc, des personnes avaient leur carte Visa et leur carte Oyster dans leur portefeuille. Ils passent ça près de la borne de lecture pour rentrer dans le métro et boum, les deux sont débités.
Ok, bon. Ça fait pas plaisir, mais. Ok. C'est des choses, j'espère, qu'ils seront réglées peut-être ou...
Tout ce qui est distance bounding, ça permet peut-être de le faire. Ensuite, l'approche. De l'Apple Pay n'est pas mal.
C'est quoi?
Parce qu'on accompagne, on va dire, une transaction NFC d'une action utilisateur, à savoir mettre son pouce sur l'emplacement du Touch ID. Après, je serais plus sceptique sur la nature du Touch ID dans sa capacité à faire une identification formelle du porteur. Parce que ça, on est en tout début, et je pense que il est possible qu'on ait des surprises, mais au moins on a l'action qui déclenche. Okay. Ça aurait pu éviter cette histoire de c'est moi qui paye dans le restaurant à la place d'un autre, quoi.
Ok. Est-ce que toi tu utilises une carte de paiement sans contact?
Oui. Ouais.
C'était un petit oui. Ce oui vous est payé par la BNP ou... Ok. Bon ben merci. Je crois qu'on a fait le tour. Alors je ne sais pas si ça convaincra les convaincus et les auditeurs, mais en tout cas on leur a apporté quelques informations.
Ouais, juste pour préciser un peu, il existe tout un ensemble de standards qui vont sortir dans le domaine de la banque, que ce soit en paiement de proximité ou en paiement à distance. Je pense notamment à la tokenisation OMV, où en gros le but c'est de ne plus faire passer un seul numéro de carte réel en clair sur les réseaux. Je pense par exemple, c'est un peu similaire à la e-carte bleue, où on génère un numéro de carte pour un paiement. Bah là, la tokenisation EMV, c'est la généralisation de ce principe de e-carte bleue à l'ensemble des transactions.
Et ça sera applicable aux cartes NFC?
Oui, bien sûr, il n'y a pas de...
Ok, bon. Eh bien, merci pour ces informations et puis à une prochaine.
Merci.